Buglos 2020, journée mariale, Père Pierre de Berger, le prophète Isaïe.
Alors cet après-midi, bon, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire d'un point de vue pédagogique, mais ce que j'ai fait, c'est-à-dire je vous ai préparé pratiquement tout sur les deux feuilles que vous avez, voilà, parce qu'en effet on va parler d'histoire. Alors on va parler d'histoire, mais on va aller encore un petit peu plus loin que ce matin dans l'histoire. Alors, il y a un titre, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas ». Voilà, c'est le texte, le titre que j'ai donné, parce que c'est me semble-t-il, un des messages très forts de ce livre. Mais en même temps, voilà, j'ai donné aussi un prophète dans l'histoire. Un prophète dans l'histoire. Alors, nous l'avons vu ce matin, je me permets juste de le rappeler, voilà, l'activité prophétique d'Isaïe se déroule dans le royaume de Juda durant une quarantaine d'années. Il y a des périodes de tranquillité, il y a des périodes plus tumultueuses, il y a des moments de calme politique, et tout ça, ça va colorer le message du prophète. Et puis, il y a des périodes de grande insécurité politique, avec un horizon, de fait, alors, pour le peuple, pour le roi, un horizon, je dirais, très trouble, très trouble. En même temps qu'il y a, et on le trouve chez tous les prophètes, d'importants problèmes sociaux et religieux. Alors, si on retrace, je crois que ce que la sœur disait avant, je pense que vous l'avez tous entendu, j'ai mentionné ce matin qu'on voit à deux reprises le prophète sceller, écrire. Mais il est évident que la grande majorité des textes que nous avons du livre d'Isaïe, la très grande majorité, voilà, a été rédigée vraisemblablement par ses disciples, c'est pas le prophète. Donc ça a été rédigé bien après. Et ça a été rédigé lorsque il fallait montrer l'accomplissement des oracles prononcés. Mais le prophète, lui, on le voit à deux reprises écrire ou demander à quelqu'un d'écrire. C'est au chapitre 8, on a vu ce matin, verset 1, verset 16, au chapitre 30, verset 8. Mais la grande majorité, tout le reste, ce sont ses disciples qui l'ont repris. Et qui l'ont repris, voilà, le plus souvent, dans l'optique de montrer que ce qu'il avait annoncé s'était réalisé. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas, on n'a pas le compte rendu comme pour les évangiles, encore moins là. On n'a pas le compte rendu de ce que le prophète, on a des oracles, bon, qui ont été repris par ses disciples, qui les ont mis par écrit, pas nécessairement d'ailleurs dans l'ordre dans lequel ils ont été prononcés. C'est ça qu'il faut. Alors, on peut dire que, je vous l'ai mis, durant le règne de Yotam. Voilà. Je vous ai mis. Je vais le lire, c'est pas très pédagogique, mais après tout. Comme ça, je ne sais pas si vous avez. Ça risque de vous endormir encore plus, mais c'est pas grave. Voilà. Le royaume de Juda. Que fait le royaume de Juda? C'est une période, à ce moment-là, je vous l'ai mis, de relative prospérité économique. Prospérité économique, indépendance politique. Il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de problème, quel est le risque? C'est qu'on s'endort. Voilà, on s'endort. Et évidemment, on s'endort par rapport à sa foi. On s'endort par rapport aux exigences qui sont celles de l'Alliance. on s'endort par rapport à la justice, par rapport au droit. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, qu'est-ce qui préoccupe Isaïe ? C'est la situation sociale et religieuse. Et pour reprendre une image que l'on retrouve chez Osée, je vous ai mis, Judas, qui a cessé d'être l'épouse fidèle pour se transformer en une prostituée. Je vous ai mis les références à ce moment-là. Et donc, alors là, ce magnifique texte du prophète que vous pourrez travailler vous-même avec le chant de la vigne, c'est-à-dire que la vigne soignée par le Seigneur ne produit plus que des fruits amers. Alors, dans les textes que je vous ai proposés, qui datent de cette époque, vous avez, ça c'est à la dernière feuille, hein, vous avez la dénonciation du culte, chapitre 1, versets 10 à 20, et vous avez aussi le chant de la vigne, chapitre 5, versets 1 à 7, qui pourrait être intéressant de comparer à un autre passage du livre d'Isaïe, chapitre 27, versets 2 et 5, où il est aussi question de la vigne. Voilà, il y a là un petit parallèle entre les deux textes. Voilà. En même temps, face au luxe, au bien-être, qui conduisent à l'injustice et à l'oubli de Dieu, le prophète évoque la sainteté de Dieu. Et il invite son peuple à se convertir, à pratiquer la justice, à faire preuve d'humilité devant son Dieu. Vous avez là, donc, vous voyez, une prédication qui n'aura pas la même couleur que la prédication qui suivra, mais ici, c'est comme souvent dans la Bible, comme parfois pour nous aussi, qui dit prospérité dit oubli de Dieu. Et le prophète est là pour dénoncer le culte. Mais quel est le culte ? Alors vous avez, c'est le premier texte que je vous propose de travailler, chapitre 1, versets 10 à 20. Voilà. Il fait partie de cette période-là, en même temps que, voilà, il dénonce l'infidélité du peuple de Dieu avec cette image dramatique de la vigne. Voilà. La vigne que le Seigneur a choyée, qu'il a entretenue. Il a tout fait pour cette vigne, et voilà que cette vigne ne produit pas de bons fruits. Lisez ces textes, je crois qu'on peut, ils peuvent nous rejoindre aussi dans ce que nous vivons. Et là, on peut les relire aussi à la lumière de Jésus, hein, bien sûr. Vous avez la deuxième période, je vous l'ai mis là. Alors là, c'est le roi Akaz. C'est une période, c'est celle où Damas et Samarie déclarent ouvertement la guerre à Juda. Et là, c'est ce qu'on appelle la guerre syro-éphraïmite. Le roi demande de l'aide à Tiglath-Pileser qui règne sur la Syrie, et que fait Isaïe ? Il s'oppose alors à la crainte du roi et du peuple. Il s'oppose et il défend une politique basée sur la foi en Dieu. Ce sont les chapitres 7 et 8 avec ce verset que je vous ai déjà lu : si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il a confiance en Dieu qui s'est engagé vis-à-vis de Jérusalem et de la dynastie davidique. Il semble cependant, comme je vous ai mis, qu'Isaïe n'ait pas été entendu, on a bien vu pourquoi. Aussi, après une réflexion toute personnelle, il décide de sceller son propre témoignage. Voilà. Alors, de cette période, vous avez la prophétie de l'Emmanuel. Vous avez la vocation. Alors, la vocation d'Isaïe, on pourrait la renvoyer un peu plus tôt. On pourrait l'envoyer à cette période qui est la période un peu de luxe, la période où le peuple de Dieu a oublié. Par contre, la prophétie de Samuel, chapitre 7, versets 1 et 17, que je vous propose de relire, bien connue, ainsi que les autres oracles messianiques, chapitre 9 et chapitre 11. Voilà, trois magnifiques textes, trois très beaux textes Bon, alors les auteurs les situent, à vrai dire, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il arrive que l'on considère que le chapitre 7, verset 1-17, pourrait évoquer la naissance du roi Ézéchias, c'est-à-dire que l'enfant qui va naître, voilà, ce serait le roi Ézéchias. Mais c'est un texte que, dans lequel les premiers chrétiens verront l'annonce de Jésus. C'est vrai qu'il y a une différence entre le texte hébraïque et le texte grec. Bon, le texte hébraïque, on nous dit « La jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, lui donnera le nom de l'Emmanuel. » Cette jeune femme pourrait être la femme du roi Achaz, et l'enfant, donc, étant le fils de ce roi. On est là dans le prophète qui, face à la crainte du roi Achaz, qui est sur le point de s'allier avec une puissance ennemie, le prophète dit non, pas d'alliance. Si Dieu a fait alliance avec la dynastie davidique, alors la dynastie davidique n'a rien à craindre. Elle n'a rien à craindre de puissance ennemie. Dieu est fidèle. Et tu verras, c'est ce qu'il dit au roi Achaz, tu verras qu'avant que l'enfant qui sera né de la jeune femme ait atteint, moi je résume l'âge de raison, les deux puissances que tu crains, elles auront disparu. C'est ça, elles auront disparu. Maintenant, évidemment, quand on relit ce texte à la lumière de la manière dont les premiers chrétiens l'interpréteront, c'est-à-dire on y voit l'annonce de l'Emmanuel. Et puis vous avez ensuite les oracles messianiques, chapitre 9 et chapitre 11, vont sans doute témoigner de la désillusion progressive du roi. Voilà. Alors je vous avais. Alors là, c'est là qu'on arrive au troisième point. Lorsqu'Ézéchias, donc était le roi dans lequel le prophète avait mis un certain espoir, je me permets de lire, hein, accède au trône, il n'a que 5 ans. Un régent s'occupe alors de la gouvernance. Et puis, c'est la mort de Tiglath-Pileser qui semble être un moment favorable pour se révolter contre l'Assyrie. Voilà. Mais Juda se maintient en marge des révoltes des pays voisins. Il vit dans une relative tranquillité, semble-t-il quand même en payant un tribut. Voilà. Et voilà que lorsqu'Ézéchias, lui, peut véritablement accéder au trône, voilà, il est habité par des désirs de réforme religieuse, ce que l'on voit, mais en même temps d'indépendance politique. Donc il se montre même prêt à s'associer à d'autres puissances rivales de la Syrie, notamment Babylone et l'Égypte. Et c'est alors qu'Isaïe intervient. Toujours pareil. Voilà. Il intervient pour que Juda ne se mêle pas à ce conflit. Vous voyez le rôle politique du prophète qui intervient aussi pour dire « il n'en est pas question ». Suivent des années de calme jusqu'à la mort de Sargon, à qui succède Sennachérib, dernier des rois assyriens. Tout ça vous l'oublierez, mais c'est juste qui nous intéresse pour l'époque d'Isaïe. Comme cela s'était déjà produit, le changement de roi semble être pour certains le moment de se rebeller. Vous voyez, il y a toujours cette tendance. Hein. Et Juda, cette fois, va se mêler. Autrement dit, cette fois, Ézéchias va se révolter, quelque part, contre la Syrie. Conséquence, et tout ça, vous l'avez dans le livre d'Isaïe. Les troupes de Sennachérib, voilà, envahissent la Judée, prennent possession de 66 forteresses, dont Lachish, et assiègent Jérusalem. Les chapitres 36-39 d'Isaïe racontent cela. Alors, quand on les lit, on est un peu aussi, qu'est-ce qu'il veut là ? Il raconte la manière dont voilà, les troupes assyriennes s'emparent de Lachish. Quand on va en Israël, bon, on n'y va plus trop et il faut avoir beaucoup de temps pour. On a encore les vestiges de Lachish. Lachish se trouve un peu au sud de Jérusalem, entre Jérusalem et le, et la mer Méditerranée. Il reste qu'il y a quelques fouilles dans cet endroit. Et il y a un miracle qui, quelque part, se produit. Je vous l'ai mis là. La chute de la capitale semble inévitable, mais Sennachérib reçoit de mauvaises nouvelles de l'Assyrie. Tout ça nous est raconté, où une révolte s'est éclatée. Préoccupé, il renonce à la conquête de Jérusalem et se contente de lui imposer une énorme taxe. 300 talents d'argent et 30 talents d'or. C'est ce que l'on peut lire dans le deuxième livre des rois. Je vous ai mis soit, quand on sait la valeur de l'or en ce moment, 9 tonnes d'argent, 900 kilos d'or. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait un petit lapsus. C'est pas les annales syriennes, c'est les annales assyriennes. Voilà, je me suis trompé. Assyriennes, en tapant ce texte. Ce sont les annales. Donc, on a cela dans les annales de assyriennes. Voilà. Alors, on arrive à savoir à peu près, hein, pardonnez-moi pas, quelle a été l'attitude d'Isaïe. Je vous ai mis, on peut distinguer trois types d'interventions. Voilà. D'abord, il y a la préparation de la rébellion. Voilà, le roi décide de se rebeller contre, mais tout cela, ça se fait en secret, et tout cela. Les oracles de cette époque, voilà, alors je vous ai donné quelques oracles au chapitre 28, au chapitre 29, reflète l'inquiétude d'Isaïe. On voit bien qu'il y a là une inquiétude devant des préparatifs qui n'apporteront pas la liberté, mais la destruction. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mis en acte sans tenir compte de la volonté de Dieu. Donc on voit bien l'inquiétude d'Isaïe. Prenons des oracles. Voilà. Dans un second temps, lorsque la rébellion semble claire et publique, là, Isaïe condamne Juda, qui envoie des messagers pour demander de l'aide à l'Égypte, chapitre 30, chapitre 31. Vous l'avez compris, faire alliance avec l'Égypte équivaut à ne pas avoir confiance en Dieu. Mais ça équivaut aussi à diviniser les puissances. C'est ça le point de vue. Voilà. Les Judéens ne se sont pas seulement embarqués dans une politique absurde, mais ils sont en train de commettre un péché d'idolâtrie. Lorsque on va idolâtrer la puissance militaire, lorsqu'on va idolâtrer la puissance de l'Égypte, Pharaon, au détriment de la confiance en Dieu, le péché voit dans le prophète voit dans cette alliance avec l'Égypte, il y voit lui un péché d'idolâtrie. J'idolâtre le pouvoir de celui qui est tout puissant au détriment de la toute puissance de Dieu. C'est ça qu'il dénonce. Et puis dans un troisième moment, la rébellion s'étant réalisée, donc avec le résultat que l'on sait, ce que l'on sait, c'est que de fait, on vient de le voir, Jérusalem ne tombera pas, mais c'est tout juste. Et en tous les cas, Jérusalem, même si Jérusalem ne sera pas prise, puisque Sennachérib a dû rentrer en Assyrie pour résoudre un problème lié à son trône, Israël sera, la Juda sera quand même sous la coupe de la Syrie. Eh bien, Isaïe, je vous ai mis, vit un échec et il laisse un témoignage écrit sur l'attitude pécheresse du peuple qui mérite d'être puni. Voilà, on voit Isaïe écrire. C'est un témoignage. Je vous avais dit, voyez ce qui s'est réalisé. Alors, beaucoup d'auteurs, je vous ai mis, pensent que c'est ainsi que se termina l'activité d'Isaïe. Bon, il est possible cependant que ses dernières paroles ne furent pas aussi tragiques, convaincu dès sa vocation. Là, ça c'est important, vous l'avez lu avant. Et la sœur a pointé cela, sœur Isabelle. Convaincu dès sa vocation, au chapitre 6, de la nécessité d'un châtiment, le prophète sait toutefois que de l'arbre abattu sortira une semence sainte. Judas sera puni, mais Judas s'est puni. Voilà. Le châtiment, c'est le peuple qui se l'est attiré, en ne mettant pas sa foi en Dieu, mais en allant, en se tournant vers des puissances étrangères. Il n'en est pas moins vrai que le prophète sait que de l'arbre abattu sortira une semence sainte. Et c'est là qu'on voit que l'espérance est première et dernière. Elle est. Et que le Seigneur a laissé un reste. Alors ça, vous le trouvez au tout début du livre. Il y a un reste qui reste, voilà. Il semble donc impossible, ça c'est une réflexion, peut-être un peu personnel, il semble donc impossible que le prophète, dans ses dernières années, n'ait pas médité sur l'avenir de son peuple et des nations enfoncées dans des années de guerre. C'est ici qu'avec certains auteurs, on situe certains oracles. Vous voyez, ils apparaissent dès le début, mais ils ont peut-être été, voilà... Il date peut-être bien après. Je vous ai mis chapitre 2, versets 2 et 4. Chapitre 11, versets 1 à 9. Vous devez le connaître, ce chapitre-là. L'enfant qui mettra son bras sous le nid du cobra, le lionceau, et voilà. Vous connaissez ce très beau texte. On est là devant des textes qui peut-être ont été rédigés précisément dans cette période où le prophète, certes, il a vécu ce qu'il a annoncé, mais il est prophète de l'espérance. Et il sait donc qu'il y a un avenir pour son peuple. Dieu ne peut pas laisser. Chapitre 11, vous avez aussi certains passages de 32, certains passages du chapitre 35, qui laisse entrevoir un futur de paix entre les nations avec la disparition de la guerre et des armes. C'est pas étonnant si ce prophète insiste. Alors je vous ai proposé plusieurs textes qui vont un peu dans ce sens, voilà, que vous pourrez lire. Voilà. Des lances, où on fera des faucilles, il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus rien... Et on comprend que ce prophète, peut-être un des rares, j'exagère, mais qui insiste avec autant de force sur la disparition de la guerre, parce qu'il s'est trouvé lui-même confronté à cette problématique et qu'il a compris la faillite des armes. On ne peut pas mettre sa foi dans les armes, on ne peut pas mettre sa foi dans la force des chevaux, c'est des choses qui reviennent souvent chez lui. Et donc vous avez là le désert qui refleurira, le triomphe du droit. Tout cela, ce sont des textes que vous pourrez travailler, qui datent un petit peu de cette époque-là, c'est-à-dire un futur de paix entre les nations, avec la disparition de la guerre et des armes, et le rétablissement de la justice, du droit. C'est un texte que je vous ai aussi proposé de travailler, chapitre 29, versets 15-21, et de la fraternité. Voilà, ces textes que vous aurez sur la fin, que vous travaillerez, sont pour la plupart des textes qui datent de cette période où, relisant voilà, l'histoire de Judas, eh bien, le prophète met toute son espérance dans un avenir de paix. Voilà. Il n'y aura plus d'armes. Ce sera la fraternité, le droit sera rétabli, la justice sera de nouveau voilà, au cœur de la vie et de la fraternité des hommes. On est bien là dans un message d'espérance et puis bien sûr le chapitre d'Isaïe au chapitre 11. Alors, maintenant, assez rapidement, quelques points d'insistance sur le message théologique. J'aurais beaucoup d'autres points, j'en ai pris quatre. Le premier, c'est la centralité de la foi. La centralité de la foi. Je dirais que la foi, comme réponse positive au dessein de Dieu, comme accueil du dessein de Dieu, et réponse positive à ce dessein. Je dirais que la foi est au cœur du message d'Isaïe. De cette foi découle une sécurité, dans le sens où nous sommes sûrs que Dieu est avec nous. Donc une sécurité qui devrait exclure toute peur dès lors que l'on accepte de s'appuyer uniquement sur Dieu. C'est une foi radicale qui bannit la peur, qui bannit l'insécurité, même si nous nous trouvons face à une situation où humainement tout semble perdu, une situation d'insécurité totale, où Jérusalem craint pour son avenir, où le roi craint pour son trône. Mais non, voilà. Cela, nous l'avons vu apparaître notamment lorsque le prophète, en dépit des circonstances apparentes, défend la pérennité de la dynastie davidique. C'est la prophétie de Nathan. J'ai vu que sœur Marie-Isabelle, ici, vous avez proposé tout un travail avec une relecture de la prophétie de Nathan. Vous verrez, c'est vers la fin. Voilà. Il est sûr que cette prophétie de Nathan, Isaïe la connaît. Voilà. Dieu a promis par l'intermédiaire de Nathan, il a promis à Samuel, voilà, que sa dynastie, il a promis à David que sa dynastie subsisterait à jamais. Et ça, c'est pour le prophète Isaïe, c'est une conviction. Donc, en dépit des circonstances apparentes, au nom de la foi qui est la sienne, il défend la pérennité de la dynastie davidique, menacée par qui entend la substituer. Alors il y a un texte, je vous l'ai dit, c'est Isaïe chapitre 7, versets 1 à 9. Voilà, on peut aller même jusqu'au verset 17. Quand vous lirez cela, avec notamment le signe de l'Emmanuel, sachez qu'on est dans ce contexte-là. Il n'est pas exclu, très intéressant, pour le prophète Isaïe, il n'est pas exclu de faire appel à des moyens humains. Il n'est pas exclu de faire appel à des aides extérieures. Mais à condition que cela n'aille pas à l'encontre du primat absolu de Dieu. Ma foi en Dieu ne m'interdit pas de faire appel à des aides, voilà. Mais à condition que, précisément, cette aide que je vais requérir des autres ne prenne pas la place de Dieu. C'est la foi qui est première. En même temps, vous pourrez voir, on voit bien que la foi, par le fait même, comporte l'humilité. Faire un acte de foi, c'est accepter de faire preuve d'humilité. La foi comporte aussi une dimension d'obéissance. Alors, on voit cela au chapitre 1, versets 18 à 20. La foi, évidemment, comporte cette nécessité aussi d'accueillir la volonté de Dieu. Humilité, obéissance, accueil de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu inséparable, ça c'est, on le voit très fort, très bien chez Isaïe, volonté de Dieu inséparable du respect du droit et de la justice. Voilà, il me semble que c'est vraiment le premier point, c'est-à-dire la centralité de la foi. Et on le comprend d'autant plus, vous l'avez vu, que dans le contexte historique qui est le sien, en période de faste ou de relative tranquillité, bon, on va oublier Dieu. En période de difficulté, face à l'ennemi, eh bien, on va aller chercher du côté d'un plus puissant que soi, en oubliant que si Dieu a fait alliance avec la dynastie davidique, alors rien ne peut lui arriver. Il me semble que les autres thèmes lui sont proches, voilà, se rattachent à cette centralité de la foi. Le Saint d'Israël, la sainteté de Dieu. Dans son expérience inaugurale, vous l'avez vu, dans cette vision, vous l'avez travaillé ce matin, chapitre 6, Isaïe, d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut dire qu'il a vu, puisque qu'il voit Dieu meurt, il a en tous les cas perçu Dieu, où Dieu s'est donné à voir. Il s'est donné à voir dans sa réalité transcendante. Voilà, cette sainteté. La sainteté, c'est l'altérité de Dieu. Dieu qui est le tout autre. Tout autre. Au-delà de ce que l'on peut savoir, connaître de lui. Maintenant, nous avons Jésus. Donc déjà, nous savons qui il est. Mais mettons-nous dans le Premier Testament. Voilà, cette expérience de la sainteté de Dieu. Et en même temps, donc, il a perçu Dieu dans sa réalité transcendante, en même temps, pour l'expression, puisqu'aujourd'hui, en même temps, on ne peut plus trop l'utiliser, mais c'est pas... En même temps qu'il a compris que dans sa réalité transcendante, Dieu n'en est pas moins présent dans le monde et au milieu des hommes. Ce n'est pas une transcendance qui l'éloigne. C'est une transcendance qui fait qu'il partage, alors si je reprenais le Concile Vatican II, je dirais les joies, les peines, les souffrances, mais c'est aussi cela. Donc c'est une présence vivante. La sainteté, la présence vivante, que le prophète d'ailleurs va évoquer, vous verrez, je vais juste les noter, à travers des anthropomorphismes. C'est-à-dire quand il s'agira de dire, voilà, qui est ce Dieu? Alors, on a vu, il est fidèle, voilà, il est source de... Bon, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un Dieu qui a des yeux. Chapitre 1, verset 15, verset 16, je pourrais peut-être reprendre ici quelques... Alors on est là devant des anthropomorphismes, c'est-à-dire que on n'a pas d'autre moyen de se représenter Dieu qu'à travers, évidemment, ce que nous sommes. Alors vous avez, je vais... Voilà, c'est au tout début... Quand vous étendez, c'est dans le fameux poème là que je vous propose de lire, chapitre 1, verset 10 à 20. Chapitre 1, verset 10 à 20, c'est le premier texte qui porte justement sur pas de culte sans justice. Pas de culte sans justice. Voilà le petit verset que je... Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Je me voile les yeux. Voilà. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voilà. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Mettez au pas l'exacteur, faites droit à l'orphelin. prenez la défense de la veuve. Bon, voilà, tout un oracle que l'on va situer dans la première période. Mais là, on voit, quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Voilà, l'image est forte. Alors, c'est un Dieu qui a des yeux, évidemment qui a des oreilles, qui a des oreilles. On voit aussi cela dans d'autres textes, toujours au chapitre 1, verset 15, chapitre 37, verset 17, qui a des mains, qui a des mains. Chapitre 1, verset 25. « Je tournerai ma main contre toi, j'éliminerai tous tes déchets. » C'est un Dieu qui a la connaissance et la sagesse. Il a la connaissance et la sagesse. Chapitre 5, versets 9 à 11. Vous avez un beau passage là. Et vous avez aussi un très beau texte au chapitre 10, les versets 22 et 26. Ce sont quelques petits passages. Voilà. Et là, d'ailleurs, je vais vous le lire parce que l'on voit dans cet oracle, on voit déjà l'avenir. Il adviendra en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe. Ils s'appuieront vraiment sur le Seigneur. Vous voyez, ça revient, cette idée de s'appuyer sur le Seigneur. Alors, les rescapés, ils s'appuieront sur le Seigneur, sur le Saint d'Israël. Donc on voit bien que la sainteté d'Israël, bon, c'est la sainteté de Dieu, sur le Saint d'Israël, un reste reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort. Même si ton peuple, ô Israël, était comme le sable de la mer, il n'en reviendra qu'un reste. La destruction est décidée, qui fera déborder la justice, et l'extermination ainsi décidée, le Seigneur Dieu l'accomplira. Mais il y aura un reste, toujours, il y aura un reste. Mais notez bien, voilà, les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappe, ils s'appuieront sur le Seigneur. Donc, il a des oreilles, il a des yeux, il a des oreilles, il a des mains, il a la connaissance et la sagesse. Il sait tout, il sait tout. Il est capable de se fâcher. Il est capable de se fâcher. On voit cela, bien sûr. Des fois, ça nous choque, nous qui sommes un peu habitués, plutôt habitués au Nouveau Testament. Bon, ce sont des anthropomorphismes. C'est une manière de dire, c'est un Dieu qui est capable de se fâcher. Mais il est toujours prêt à opérer des signes. Il est, alors là, je vais reprendre des titres que l'on retrouve tout au long du livre d'Isaïe. Il est le Seigneur puissant, chapitre 1, verset 24, fort, chapitre 9, verset 5, Père, vous avez cela dès le début du livre, on voit qu'il est un Dieu Père. Et que le peuple est son fils, ou ses fils. Il est père, il est aussi, alors vous avez chapitre 1, verset 2, chapitre 9, verset 5, chapitre 30, verset 1, il est principe. Alors, il ne parle pas encore de créateur, ça viendra surtout avec le deuxième Isaïe. Il est principe de toutes choses. Chapitre 9, verset 5, il est le roc. Chapitre 17, verset 10. Chapitre 26, verset 4. Et il est, bien sûr, l'image, on l'a déjà évoquée, il est le vigneron. Le vigneron. Quand Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Quand le Christ évoque la parabole des vignerons homicides, on voit que cette image de la vigne est une image, bien sûr, qui est bien connue, bien connu de ses contemporains, puisque voilà, il y a de la vigne, mais bien connu d'un point de vue biblique. Il est le vigneron. Et là, je me permets juste de vous relire ce passage que je vous propose de lire, tellement il est beau. « Que je chante pour mon bien-aimé, pour mon ami, le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins. Il n'en eut que de mauvais. Il n'en eut que de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'en attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle produit de mauvais? » Je vous laisse lire à la suite. Mais si vous lisez, si vous travaillez ce récit, n'oubliez pas d'aller voir en même temps le chapitre 27, versets 2 et 5, et de lire. Voilà. Cette vigne, bien sûr, c'est le peuple de Dieu. C'est d'ailleurs très, très impressionnant. Jésus fait la même chose dans une parabole de l'évangile de Matthieu. Il raconte une parabole, puis il s'adresse ensuite aux pharisiens. Il leur dit, mais qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là? C'est-à-dire, c'est la parabole des vignerons homicides. Qu'est-ce qu'il fera, le maître de la vigne? Et là, les pharisiens répondent. Et ils répondent en se condamnant eux-mêmes. Et ici, c'est pareil. On voit le prophète qui évoque de la part du Seigneur cette parabole. « Mon bien-aimé avait une vigne. » Et puis il y a « Et maintenant, habitants de Jérusalem, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire davantage ?» C'est là qu'on voit la force de la parole prophétique. Le troisième point, alors c'est vrai que c'est, me semble, un élément qui apparaît tout au long du message d'Isaïe. C'est, je l'ai intitulé, si je me souviens bien, l'homme, mais ça pourrait être l'être humain, aux prises avec le péché. On pourrait presque dire immergé dans le péché. Voilà. Nous l'avons vu ce matin dans ce récit du chapitre 6, comme on l'a vu cette semaine avec les prêtres par rapport à Pierre dans l'évangile de Luc, lorsque le prophète fait l'expérience de la sainteté de Dieu, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Je suis pécheur. À la lumière de la sainteté de Dieu, eh bien, le prophète se reconnaît pécheur. Mais il reconnaît aussi le peuple pécheur. Et il me semble que dans ce péché, ce que dénonce peut-être le plus souvent quand même le prophète Isaïe, c'est une dimension du péché, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'orgueil en tant que... l'orgueil pourrait être contraire à la foi. Pourquoi je dis contraire à la foi? Parce que justement, on pense s'en sortir tout seul. On pense s'en sortir tout seul, on pense s'en sortir, voilà, en mettant sa confiance dans les alliances humaines. Je vais aller chercher du côté de la puissance, d'une puissance étrangère, et je m'en sortirai, tout seul, au lieu de mettre ma foi en Dieu. On voit aussi, mais tout ça c'est des choses que nous connaissons bien, que dans cette dimension du péché, il y a aussi l'orgueil, que l'on met dans ses richesses, dans ses richesses. Alors il y a des passages, au chapitre 2, voilà, chapitre 2, vous verrez, il y a un certain nombre de passages, verset 7. L'orgueil que l'on peut mettre dans une certaine forme de vanité. Alors, bon, vous verrez cela au chapitre 3. Au chapitre 3, il y a justement là le prophète dénonce. Le Seigneur dit, c'est le luxe des fables de Jérusalem. Le Seigneur dit, puisque les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles vont le cou tendu en lançant des œillades, puisqu'elles vont à pas menus en faisant sonner les grelots de leurs pieds, le Seigneur rendra galeux le crâne des filles de Sion et il découvrira leur front. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera les parures, grelots, soleil, lune, pendentifs, bracelets, voilettes, turbans, gourmettes, cordelières, talismans, amulettes, bagues, boucles de nez, habits de fête, foulards, écharpes, sacs à main, miroirs, chemises de lin, bandeaux, mantilles. Vous voyez, c'est très intéressant. Là, c'est très intéressant parce que ça nous donne une idée de ce qu'étaient justement les bijoux que portaient les femmes alors. Là, on a un très beau descriptif. Mais regardez quand même la fin. Au lieu de parfum, ce sera la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de savante tresse, la tête rasée. Au lieu de linge fin, un pagne en toile de sac. Une marque infamante au lieu de beauté. Il y a la dénonciation, mais c'est l'orgueil, la vanité. Voilà. Alors il y a la confiance dans les alliances humaines, la confiance que l'on met dans ses richesses, la confiance que l'on peut mettre aussi dans certaines formes de beauté. Voilà. Mais tout cela, c'est vain. Tout cela est vain. En même temps, nous l'avons vu, évidemment, dans ce péché, qui est finalement un péché contre la foi. Contre la foi. Voilà. Il y a, évidemment, le fait de mettre sa sécurité dans les armes. Ça, ça pourrait être une certaine actualité, hein, quand on réfléchit bien. C'est pour ça que ces textes peuvent nous parler, quand même. Hein. Voilà, ça pourrait être une certaine... Le fait de mettre sa confiance dans les armes... Mais voilà, parce que les armes nous sauveront, parce que les armes nous permettront. Alors, on voit cela paraître d'ailleurs de manière assez souvente dans ce livre. Hein. Et on comprend, je vous l'ai dit, on comprend un peu pourquoi. Le pays est rempli d'argent et d'or. Alors, je vous lis chapitre 2, voilà, ces oracles que le prophète prononce au tout début dans cette période un peu faste. Voilà, chapitre 2, verset 6 et suivant. Voilà. « Oui, tu as délaissé ton peuple, la maison de Jacob. Ils sont submergés par l'Orient, autant de devins que les Philistins, beaucoup trop d'enfants d'étrangers. Le pays, verset 7, est rempli d'argent et d'or. Pas de limite à ses trésors. Le pays est rempli de chevaux. Pas de limite au nombre de ses chars. » Le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ils devront plier les humains. L'homme sera abaissé. Et puis vous avez ensuite, l'orgueilleux regard des humains sera abaissé. Ça devrait vous rappeler des choses, pas des béatitudes. Les hommes hautains devront plier. Et ce jour-là, le Seigneur seul sera exalté. Voilà. Cette sainteté de Dieu, voilà, de laquelle découle, on l'a vu, hein, cette radicalité de la foi, qui bannit tout ce qui d'une manière s'y oppose. Et il me semble que chez Isaïe, voilà, il y a cette sorte d'orgueil, de sécurité. Que l'on met, on l'a vu, dans les alliances, les richesses, dans les fortifications, les armes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, le prophète, quand on lit le livre d'Isaïe, on constate que il n'a pas peur d'intervenir aussi vis-à-vis des peuples païens, notamment la Syrie, ou même Babylone, qui s'imagine présomptueusement se faire l'égal du Très-Haut. C'est-à-dire qu'il intervient pour son peuple, mais en même temps, quand il voit les nations à côté qui font le beau, si je puis dire, ou qui en tous les cas pourraient penser, il intervient. Et là, il y a des oracles, si vous voulez, le chapitre 10, versets 13 à 14, vous avez un oracle voilà, contre la Syrie, et puis vous avez surtout un oracle contre Babylone, chapitre 14, versets 13 et 14. Alors évidemment, il y a les conséquences du péché. L'homme aux prises avec le péché. Et l'homme aux prises avec le péché, vous voyez bien quelle va être la conséquence, c'est le fait que tout péché porte en lui les germes du châtiment annoncé par le prophète. Et là, quand on lit le prophète Isaïe, on voit bien que ce châtiment, ça peut être d'un côté l'anarchie, avec la perte de tous les biens que l'on avait accumulés. On voit surtout cela au chapitre 3, les versets 5 à 7, puis les versets 18 à 23. Ça peut être, si je suis un peu le récit, ça peut être aussi, bien sûr, la faim, la soif, l'esclavage, alors pensez, la dévastation, les invasions, l'abandon. Mais il me semble pouvoir dire que le fond suprême de la punition, me semble qu'il consiste chez Isaïe dans l'incapacité de comprendre le sens des événements. Voilà. C'est ça le châtiment. Le peuple se punit lui-même. Et ça, je pense que nous pouvons le vérifier nous-mêmes. Finalement, on se punit soi-même. Dans la mesure où, ne mettant plus sa foi en Dieu, mais la mettant dans tout ce que l'on vient de voir, eh bien, on finit par perdre le sens. Le sens des événements. Et on finit par fermer son cœur. En raison de son propre endurcissement. Et là, vous retrouvez le récit que vous avez lu ce matin, qu'on évoquait, chapitre 6, verset 10. Cet endurcissement du cœur, voilà, est la conséquence du manque de foi. Parce qu'on a oublié on s'est détourné de la sainteté de Dieu, qu'on a oublié de mettre sa sécurité en lui et qu'on finit par la mettre dans l'argent, dans les puissants, dans ceci, dans cela, eh bien, c'est son cœur qui devient endurci. Et c'est le châtiment. Et c'est pour ça que ça paraît dans le texte qu'on a lu ce matin comme un peu presque non pas la finalité, mais afin que, et on disait bien non, Dieu ne veut pas nécessairement cela. Mais le constat, c'est bien que plus la parole de Dieu intervient, plus le peuple de Dieu se ferme à cette parole et s'endurcit. Et on dira que c'est Dieu qui endurcit. Mais en réalité, c'est en raison de son refus, en raison du refus de cette parole, que le cœur de l'homme s'endurcit. Dernier point, parce qu'on pourrait s'arrêter sur cette note tragique. Le quatrième point, ça nous a été dit et redit, c'est le plan salvifique de Dieu, le dessein salvifique de Dieu. Parce que c'est le point un peu final du message, centralité de la foi, sainteté de Dieu, l'être humain, le peuple, aux prises avec son péché. Et à la fin, il faut bien que Dieu vienne sauver. C'est lui qui sauve. Autrement dit, l'ultime parole de Dieu, telle qu'elle apparaît constamment dans le livre d'Isaïe, c'est son salut. Son salut. Qui commence avec le reste, ce petit reste qu'on a déjà évoqué, ce petit reste de ceux qui s'appuient sur lui, de ceux qui mettent leur confiance en lui et qui attendent qu'il fasse grâce, parce qu'il va faire grâce. Et ça, le prophète en est certain. Le peuple de Dieu expérimentera le châtiment, voilà, qui est un peu son propre châtiment. Mais le petit reste, lui, c'est que le peuple de Dieu, que Dieu fera grâce. Il fera grâce dans une Sion, une ville de Jérusalem, qui sera renouvelée, qui sera gouvernée par un roi idéal, par le Messie davidique. Et je crois qu'on retrouve cela à la fois au chapitre 9, versets 1 et suivant. C'est les deux oracles messianiques qui suivent le premier oracle. Donc, chapitre 9, versets 1 et suivant. Et puis, bien sûr, le chapitre 11, que vous connaissez bien, que vous pourrez relire. Chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Vous connaissez tous ce passage. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse. Tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi. Je continue. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté sur ses épaules, on proclame son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté qu'il établira et affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. L'ardeur du Seigneur de l'univers fera cela. Voilà. Promesse salvifique. Et puis le chapitre 11, c'est ça que je vous propose, si vous le faites, de lire chapitre 7, chapitre 9, chapitre 11. Là, déjà là, la relecture de ces trois oracles messianiques. Voilà, un rameau sortira de la souche de Jessé, donc David. Hein. Un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse. Et c'est là qu'il y a cette vision un peu. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, la vache et l'ours auront même pâture, leurs petits. Il ne se fera ni mal, ni destruction, sur toute ma montagne sainte, Jérusalem, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer que comblent les eaux. Voilà. On est là dans ce plan salvifique de Dieu, donc dans une Sion, une ville de Jérusalem, renouvelée, gouvernée par un roi idéal, le Messie davidique. Le Messie davidique, avec comme une vision, je dirais presque paradisiaque, en retour, voilà. Il n'y a plus de violence, il n'y a plus de mort, il n'y a plus, parce que la connaissance du Seigneur. Alors en même temps, je dirais une vision qui n'est pas seulement future, mais qui est déjà présente. Parce que cette œuvre de Dieu, on l'accueille dans l'aujourd'hui. Et c'est cette œuvre de Dieu que l'on accueille dans l'aujourd'hui, voilà, qui en même temps est source d'espérance et source de conversion. Voilà les quatre points que je voulais reprendre avec vous. Donc, il y en aurait bien d'autres, mais je pense que ça suffit. Ça vous donne une petite idée de ce très beau livre. Alors, si vous regardez le plan, pour ceux qui ont le plan, là, si vous en avez, vous voyez que... Bon, le dernier point, c'est un peu un plan d'axe d'ensemble. Ceux qui n'en ont pas. Voilà. Voilà, vous avez ici un plan d'ensemble du livre. Alors, bon, le chapitre 1, c'est un plan parmi d'autres, parce que vous en trouverez d'autres, mais bon, c'est quand même une manière de penser. D'abord, le chapitre 1, voilà, que l'on présente souvent comme une introduction à l'ensemble du livre, et c'est là que je vous propose, si vous le voulez, de relire le texte concernant la dénonciation du culte. Les chapitres 2 à 12, on a là des prophéties qui ne sont pas nécessairement de la même époque, il faut toujours avoir ça en tête, hein. Voilà, c'est un peu une reconstruction qui a été faite, mais ces prophéties-là concernent Israël et Juda. Alors Juda, bien sûr, c'est Jérusalem. Et en même temps, parfois, on voit que le prophète évoque le royaume du Nord, il évoque Jacob, Juda. Alors, vous avez, dans ce que je vous propose, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a la très belle vision que l'on trouve à ce moment-là sur Jérusalem. C'est... Non, oui, mais je ne voulais pas... Voilà, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur... Vous voyez, sera établi au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Tous les peuples y afflueront, des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. » Vous voyez là la centralité de Jérusalem pour le prophète. Il est vraiment convaincu que voilà, Jérusalem a été élue. Alors c'est vrai que c'est un texte qui aujourd'hui est lu et actualisé par certains courants baptistes, de manière pas très juste, parce qu'on peut faire aussi une lecture de ce passage. Je pense qu'il semblerait que dans l'entourage de M. Trump, il y ait un certain nombre de baptistes qu'il est encouragé à aller à Jérusalem il y a quelques années, parce que pour eux, c'est de fait ce que le prophète Isaïe a dit, cela est encore vrai d'un point de vue politique. Politique, oui. C'est là qu'on voit comment les lectures fondamentalistes peuvent être extrêmement... Nous, il nous faut le situer à cette époque-là, à ce moment-là, dans l'histoire, dans ce que vit le peuple. Je ne veux pas dire que Jérusalem n'ait pas d'importance aujourd'hui, bien au contraire. Mais attention à certaines, parfois, récupérations. Vous avez là, dans le champ de la vigne, on l'a déjà vu, et vous avez, je propose quand même qu'on lise là, ensemble, la prophétie de l'Emmanuel, ainsi que les oracles messianiques 9 et 11, qui viennent bien après, bien sûr. La vocation d'Isaïe, je crois que nous l'avons vu ensemble, hein, vous l'avez vu, voilà. Je n'ai rien pris, vous avez chapitre 13 à 23, tout ça c'est pour si vous lisez vous-même, vous avez là un certain nombre d'oracles sur les nations étrangères, Babylone, la Syrie, bon je n'ai pas choisi de texte voilà, dans ce cadre-là. Par contre, vous avez alors les chapitres 24 à 27, On considère que ce sont des chapitres à dominante apocalyptique. Pourquoi il y a question d'un avenir, voilà, pour la fin des temps. Alors notamment, vous savez, vous le connaissez, c'est au chapitre 25. Au chapitre 25, vous avez le fameux « les viandes grasses, les vins succulents, ce banquet que Dieu préparera pour son peuple ». Voilà. Si vous lisez ces passages, n'hésitez pas, si vous avez une Bible avec... Moi, je ne dis pas nécessairement les notes, parce que des fois, les notes... Mais si vous avez des Bibles avec des textes en marche, des références en marche, de chaque côté du texte, n'hésitez pas à aller les voir. Parce que souvent, il y a des éclairages par rapport au Nouveau Testament ou autre. Ça nous permet d'approfondir la lecture. Et puis vous avez, voilà, alors après on a dit, voilà, oracle pour divers, alors chapitre 28 à 33, des oracles divers de promesses et de menaces, toujours sur Israël et Juda. Alors le très beau passage du livre du chapitre 29, très très beau passage, voilà, juste pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. 29, chapitre malheur. Voilà. Alors, le texte commence de manière un peu tragique, mais il se termine de manière très positive. En ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre et sortant de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. De plus en plus, les humbles se réjouiront dans le Seigneur et les pauvres gens exulteront à cause du Saint d'Israël. Et ce titre revient constamment, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, les railleurs seront anéantis et tous ceux qui sont à l'affût du mal seront exterminés. Ainsi, ceux qui font condamner quelqu'un par leurs paroles, ceux qui tendent des pièges au cours des débats du tribunal et attirent l'innocent dans l'abîme. Dieu pardonnera, chapitre 30, très beau chapitre. Et puis vous avez ce très beau passage, alors on dit que c'est un fragment d'autres fragments apocalyptiques, le désert refleurira. Alors sans doute un passage voilà, très connu aussi, magnifique, où là c'est toute l'espérance du prophète qui apparaît, voilà, juste pour que vous ayez une idée de quoi il s'agit. C'est une proposition de lecture, hein, ce sont des textes que j'ai choisis, il pourrait peut-être y en avoir d'autres, voilà, il me semble qu'ils peuvent nourrir notre lecture et un peu notre prière. Qu'ils se réjouissent le désert et la terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs des champs, qu'elle saute et danse de cris de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sharon, et on verra la gloire du Seigneur. Et là on va retrouver alors les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds. Vous savez que ces oracles sont extrêmement importants. Pourquoi ? Vous vous souvenez quand, dans l'évangile de Matthieu, les disciples de Jean viennent trouver Jésus pour lui dire, parce que manifestement Jean a quelques doutes quand même, ils viennent trouver Jésus en disant, mais es-tu le Messie ou devons-nous en entendre un autre ? Que fait Jésus ? Qu'est-ce qu'il répond ? Les aveugles voient, les boiteux entendent, c'est-à-dire il reprend ses oracles. Il reprend ces oracles d'Isaïe, ces oracles que, précisément, que l'on lisait comme l'annonce des temps messianiques. Ce sont ces oracles. Il ne dit pas « je suis, regardez-moi bien, je le suis ». Il dit non. Il reprend ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les yeux des aveugles verront, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Voilà, ces oracles prophétiques, bien sûr, vont être relus au fil des siècles comme l'annonce des temps messianiques. Et puis vous avez tout ça, pour ceux qui voudraient un peu lire l'ensemble, les derniers chapitres, voilà, c'est plus de type historique, on est d'ailleurs un petit peu surpris, ce sont des récits sur l'activité du prophète au moment de la campagne de Sennachérib contre Jérusalem. Voilà.